Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bienvenue au milieu de nous, les uns et les autres. Que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole que nous allons ouvrir. Alors, on va aller dans le deuxième livre de la Bible. Il s'appelle comment? Sans regarder votre Bible, naturellement. Le deuxième livre de la Bible. Exode. Voilà, tout simplement. Livre de l'Exode, au chapitre tout simplement 17. Et nous allons faire ce texte, tout simplement lire ce texte. Alors, verset 8, s'il vous plaît, Exode 17, verset 8. C'est une histoire originale, mais je pense que c'est tout à fait d'actualité pour nous aujourd'hui, parce que rien n'a changé. Voilà, hein, c'est ce que la Bible nous rappelle dans certains livres, je pense au livre de l'Ecclésiaste ou les choses comme ça, que rien ne change et tout change en même temps. Les situations sont toujours les mêmes quelque part, alors il y a le contexte qui change, ça c'est certain. Alors, voilà ce que nous avons devant les yeux et que je lis, que nous partageons ensemble. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. » Défends-toi, ça veut dire. « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qui lui avait été dit par Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans un livre, c'est ce que nous avons devant les yeux, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel ma bannière ». Il dit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » J'ai titré notre méditation ce matin « Les mains élevées vers le ciel » avec toute sa signification que cela peut revêtir, que vous avez déjà deviné le sens finalement de ce que nous allons étudier. C'est un commentaire biblique, les mains élevées vers le ciel. Il apparaît un nom, dès le départ, c'est le nom d'Amalek, c'est le premier personnage dans ce chapitre, ou tout simplement plutôt dans ce paragraphe. Et moi je lui ai donné un nom à Amalek, je l'ai appelé le mouton noir. Vous savez ce que ça veut dire? Dans une société, dans finalement, eh bien là, un groupe ou un rassemblement, il y a naturellement, eh bien, parfois des moutons noirs. Des gens qui, quelque part, sont intrigants, sont finalement, eh bien, des gens qui, quelque part, ne supportent pas les autres et qui sont animés de sentiments qui sont des sentiments de haine, des sentiments de destruction, des sentiments de jalousie, c'est surtout ça, hein, finalement. Et Amalek, nous pouvons dire qu'il est de ce type de personnage. Heureusement qu'il y a le contraire qui existe. dans tous les registres, finalement, de nos sociétés d'hier et d'aujourd'hui. Et que ce soit en politique, que ce soit même parfois dans les églises, ça s'est vu. Et malheureusement, ça se verra encore partout, dans tous les groupements d'une manière ou d'une autre. Mouton noir. Amalek était d'origine païenne, naturellement. Et il n'était certainement pas ignorant de ce qui s'était passé pour ce peuple qui avait été transporté, déporté, on peut le dire de cette manière, en Égypte. Et ils étaient réduits à la servitude et à l'esclavage pendant 430 ans. Le peuple d'Israël, naturellement. Ce n'était pas la dernière fois que ça allait leur arriver, hein, ça c'est sûr. Hein. Et d'origine païenne, étranger finalement, eh bien, à ce que possédait ce trésor Israël, les Hébreux, un trésor de connaître Dieu. Un trésor, finalement, eh bien, d'avoir la révélation de la pensée de Dieu. Ce qui a donné naturellement, eh bien, un peuple qui craignait Dieu. Amalek était certainement une tribu parmi les nations païennes, et il va étendre son hégémonie dans la région de Kadès-Barnéa, c'est-à-dire le sud. Et il était puissant, comme aujourd'hui nous avons des empires puissants. Nous avons encore des nations puissantes, même si elles sont petites, hein, on le voit, hein, que ce soit quatre points cardinaux de notre planète, eh bien on s'aperçoit que rien n'a changé. Rien n'a changé sous le soleil, vous connaissez hein, ce qui nous est dit là autour de cette question. Donc, c'était un peuple plutôt, parce que quand il y a un roi, quand il y a quelqu'un, ça infiltre et ça instille naturellement eh bien, les sentiments de ce dirigeant, de ce gouverneur, de ce roi, de ce prince, peu importe, auprès de sa nation. Et une chose qui est certaine, c'est que quand Amalek a su que les Hébreux, à bras étendus, à travers la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu est sorti d'Égypte, et de quelle manière ? On connaît finalement eh bien, le résumé de la chose. Hein. D'abord, Moïse se présente devant Pharaon, il va y avoir des calamités, ce qu'on appelle les plaies d'Égypte, il va y avoir la fuite vers le désert des Hébreux, il va y avoir la mer Rouge, il va y avoir toutes sortes de choses. Et nous voyons qu'Amalek va se sentir menacé parce que le peuple doit remonter eh bien, là, vers la Palestine, vers le pays de la promesse. Et il éprouve à ce moment-là une haine incompréhensible, quelque chose qui va monter dans son cœur en disant « Mais c'est une nation, ces Hébreux !» Et il a peur probablement de la puissance qui accompagne Israël. Et nous voyons qu'il va éprouver ce ressentiment de destruction, détruire Israël, détruire le peuple hébreu pour des raisons que nous venons de définir, sa haine. Parce que nous voyons qu'il va trouver une stratégie, il va attaquer perfidement, car son désir, c'est d'anéantir le peuple de Dieu, tout juste sorti de l'Égypte. Ils se disent, mais ce sont des esclaves. Ils n'ont jamais appris la guerre. Ils ne connaissent pas, finalement, eh bien, ce que nous connaissons dans nos nations, où nous avons toujours mené toutes sortes de combats et de luttes, hein, eh bien, à travers tous les peuples païens qui sont autour de nous. Et c'est comme ça qu'il a dominé Amalek et puis les Amalécites, naturellement. Alors, c'est ce désir, et ça, c'est quelque chose de terrible. Ouais, c'est quelque chose de terrible, parce que ça vient du jardin d'Éden, tout ça, hein, entre Caïn et puis Abel. Comment peut-on expliquer l'amour, et comment peut-on expliquer la haine? Et c'est pas une petite haine, c'est véritablement faire mourir, détruire. Vous savez que nous sommes dans la même considération, que nous sommes finalement livrés aux mêmes provocations aujourd'hui. Moi, je ne veux pas faire de politique, hein, c'est pas ça hein, mon propos. C'est de prendre le texte et puis de voir quelle est la nature du cœur de l'homme. Il y a parfois un amour spontané. On aime les gens sans les connaître. Parce que finalement, il y a non pas seulement des affinités, mais il y a quelque chose au fond de notre cœur qui verse vers l'amour, vers la considération, vers le respect, toutes sortes de choses. Et puis il y a le contraire. Heureusement, ils sont moins nombreux. Mais quand ils se réunissent, ou quand véritablement les choses sont mûres, eh bien, je peux vous dire que ça fait beaucoup de mal. Hein. Il suffit de compter tout ce qui peut arriver encore aujourd'hui, et tout ce que notre 20e siècle, et puis des siècles auparavant, depuis les temps immémoriaux, ce qu'a pu être finalement le sentiment de haine dans le cœur des hommes. C'est terrible. C'est terrible. Alors, nous voyons que Amalek va profiter de cette faiblesse apparente de la sortie des Hébreux d'Égypte pour dire, eh bien voilà, ils ne connaissent rien, ce sont des esclaves, ils ont toujours été sous la merci de ceci et cela. Alors on va leur faire, finalement, eh bien, on va leur faire sentir que c'est nous qui dirigeons les choses, que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons la puissance. Et il va attendre ce moment-là qu'ils sortent, et là il les attend. Alors, beaucoup de choses ont été véritablement, ils ont été victorieux les Hébreux, quand ils étaient en Égypte, quand ils ont passé la mer Rouge, quand ils ont véritablement traversé une partie du désert, mais quand ils vont s'approcher eh bien, du pays de la promesse, je parle version naturellement des Juifs, je pourrais dire que Amalek est le type d'ennemi anti-Dieu, comme il y aura un antichrist, parce que ça nous rejoint tout ça. Ouais, ça nous rejoint. Et vous savez que nous sommes dans une société aujourd'hui, on parle beaucoup de paix, mais de paix et de paix. Mais finalement, je pense qu'on parle beaucoup de guerre, hein, d'armement, de réarmement, hein, où les grands de ce monde, je ne vais pas faire finalement eh bien, de commentaires sur les dernières actualités, mais une chose qui est certaine, c'est terrible. Vous savez, dans le monde inconverti, un monde qui ne connaît pas Dieu, tout ça c'est un jeu de dupes. Oui. On l'a vu à Munich. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, mais on sait comment ça se passe. C'est pour tromper l'ennemi. Toutes sortes de choses. Et moi, je crains, au regard de ce que nous enseigne la Bible, parce que c'est le livre de la vérité, c'est le livre des réalités aussi, c'est le livre où Dieu a parlé, il est au-dessus des hommes, même les plus puissants, les nations, les empires, il est au-dessus. Et c'est jamais le méchant qui gagne. Jamais. Mais par contre, leur méchanceté peut faire énormément de mal aux autres. Par haine. Par tout simplement, eh bien là, rejet. Et c'est vrai que, retenons le mot Amalek, anti-Dieu. Et on le retrouvera dans la dernière bataille, à travers le livre de l'Apocalypse et à travers Hermageddon. Alors bon, ça c'est vous, je vous renvoie à votre étude personnelle, mais c'est terrible, hein. Christ est venu pour sauver l'humanité, et l'antéchrist est venu pour, finalement, eh bien, mettre un terme à cette humanité. Mais de quelle manière? Les portes de l'enfer sont déjà entrouvertes, il y a bien longtemps. Hein. Nous allons voir encore un autre aspect, c'est une forme de commentaire que je fais. Ils vont se retrouver ensemble, les Amalécites à la tête Amalek, et puis il y a le peuple des Hébreux, le peuple juif. Ils vont se retrouver sur un terrain. Et sur ce terrain, ça va être une opération particulière qui va se passer. Comme ça se passera également, j'anticipe, hein, mais à Jisraël, quand les nations de la terre se lieront contre Israël. Jisraël, ça vous dit quelque chose? La vallée ou la plaine de Megiddo. Ça, c'est de l'Apocalypse. Ça, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le positionnement de la place de l'un et de la place de l'autre. Ce que va faire l'un et ce que va faire l'autre. Et la manière dont Dieu, du haut du ciel, va intervenir. Il y a d'abord ce personnage dont je vous ai donné quelques traits saillants. Et il y a trois autres personnages que nous connaissons bien. Il y a le chef de guerre hébreu, Josué, qui est le successeur de Moïse. Il va avoir les pleins pouvoirs. Mais il est jeune. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment toujours il faut faire. Et il va commettre dans, finalement, son ministère de jeune général, eh bien, des erreurs. Mais bon, on passe là-dessus parce que Dieu ne lui en tient pas compte. Alors, il y a Josué. Et vous savez ce que veut dire le mot Josué? Josué, c'est la même racine d'un autre que nous allons parler. Josué, ça veut dire l'Éternel, Dieu sauve. C'est un très beau, finalement, nom. Hein. Et l'Éternel sauve. Et c'est un nom prédestiné. C'est une préfiguration, on pourrait peut-être le dire de cette manière. C'est celui qui combat et il est à la ressemblance de Jésus. Parce que quand on regarde les mots Josué et Jésus, c'est la même racine. Même racine, tout simplement. Et nous voyons qu'il est à la ressemblance de Jésus qui, lui, dans une autre dispensation, Dans un autre testament, le nouveau, celui qui nous a été révélé à nous qui sommes quand même d'origine païenne, où encore Israël n'a toujours pas reconnu son Messie, mais bon, ça viendra. À quel prix, mais ça viendra. Mais toujours est-il que nous voyons ce Josué va sortir vainqueur. Et c'est ça, justement, malgré peut-être les doutes qu'il a pu avoir, malgré les peurs, les frayeurs, la cruauté de cet Amalek, parce que c'était pas n'importe qui, alors il va sortir vainqueur, et je crois que c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Ne comptons pas sur nos forces, comptons sur la vie de l'Esprit que Dieu nous a donné et nous a révélé. Il sort vainqueur. Sur la colline, Réphidim, parce que c'est ça ce que ça veut dire, c'est la colline et la, finalement la plaine. Et nous voyons qu'il y a aussi une analogie à faire entre sur cette colline, cette hauteur. Ça nous rassemble et ça nous donne, ça nous suggère la chambre haute à la Pentecôte. Vous voyez, tout ça se rassemble, vous voyez. Hein. Il y a l'homme sans Dieu et il y a l'homme avec Dieu, le croyant, nous pourrions dire le peuple d'Israël élu de Dieu. Et ça nous ramène automatiquement, moi ça m'a fait penser à la chambre haute. Ce qui s'est passé à la chambre haute, c'est qu'il y a eu une formidable effusion du Saint-Esprit et c'est là que l'Église est née. Et nous faisons partie de l'Église. Et nous détenons finalement eh bien, la grâce qui nous a été donnée d'être baptisés du Saint-Esprit. Et quand Jésus dira, après sa résurrection, dans le premier chapitre finalement du livre des Actes, vous recevrez une puissance. Et c'est pas pour rien. Et peut-être avons-nous l'habitude, nous, de dire, ben voilà, mais on a peu de puissance dans l'Église. Mais non. Mais non. Si véritablement nous avons à vivre ce que Dieu nous a préparé, eh bien nous, Dieu nous a donné une puissance. Il nous a donné, non pas je dirais le mot pouvoir, mais il nous a donné ce qui était nécessaire pour lutter contre l'opposition et contre eh bien, les moutons noirs, en quelque sorte. C'est bien cela. Hein. Alors il y a Moïse, que nous connaissons bien, je ne fais pas de commentaires. Il y a Aaron, le prêtre que nous connaissons, frère de Moïse. Et puis il y a Hur. Et quel est leur rôle qu'ils vont avoir dans cette affaire ? La stratégie du combat dans la plaine. Eux, ils sont montés les trois. Ils sont montés sur le haut de la montagne. C'est véritablement eh bien, un point de vue extraordinaire. On peut dire ils voient. Hein. Et d'ailleurs, dans les combats, c'est souvent sur les éminentes que les armées se placent le mieux possible. Donc, la stratégie du combat dans la plaine, ça se passe en bas. Et moi, je voudrais vous dire, ça se passe sur la terre. Il n'y a pas de doute. C'est le combat qui va finalement une journée entière, jusqu'à la tombée de la nuit, on l'a vu tout à l'heure, c'est le combat, c'est l'affrontement direct dans la montagne et sur la montagne. Je rappelle ces trois personnages, il y a Moïse, qui en avait déjà pas mal vu, hein. Il y a Aaron et puis il y a Hur. Et là va se jouer un autre type de combat de nature non naturelle, mais spirituelle. Et c'est ça ce qu'il ne faut jamais perdre de vue. Quelquefois nous sommes saisis par des craintes, par des peurs, par toutes sortes de questions, par toutes sortes de doutes, ouais, toutes sortes d'effrois. Mais une chose qui est certaine, c'est que la première action que nous devons avoir, c'est les mains élevées vers le ciel, c'est-à-dire c'est la prière, et crier à Dieu pour que véritablement il vienne nous délivrer. Nous l'oublions dans notre société, dans notre civilisation, et à travers peut-être tout ce que nous voyons autour de nous. Ça, c'est sûr. De nature spirituelle, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Voilà, je rappelle ce texte que je vous ai souvent répété, c'est que Dieu a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Ne le cherchons pas, il y a quelquefois des regards complètement égarés qui disent « Mais Seigneur, où es-tu, Seigneur, où es-tu ? » Mais le Seigneur est là. C'est parce que vous avez besoin de le voir pour croire. Eh bien, Jésus nous dit « Eh bien, si tu crois, tu verras, mais après. » Rappelons-nous de cela, parce que nous faisons souvent cette erreur. Et nous voyons que ces trois hommes vont implorer le secours, non de la chair, la première réaction, ils sentent qu'ils vont être dépassés par cette tribu Amalek, mais ils vont rentrer dans une lutte invisible. Et combien de choses se passent au-dessus de notre tête, au-dessus de nos cœurs, de nos pensées, parce que ça se passe dans l'invisible. Et nous, nous voulons voir pour croire et de dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Donne-moi un signe, Seigneur. Ben, écoutez, si vous marchez qu'avec des signes, vous ne grandirez jamais spirituellement. Et j'ose le dire, parce qu'on l'a vu. C'est marcher à l'aveugle. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui nous dirige. Rappelons, c'est tout simple tout cela. Mais combien nous avons vu de gens, et quelquefois qui sont en stationnement, même dans nos églises, parce que, Seigneur, donne-moi un signe, donne-moi ceci, comme Gédéon, vous savez, avec l'histoire de la toison, et toutes sortes de choses. Moi, j'ai toujours été un petit peu opposé quand j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que je me dis, mais on n'a pas besoin de marcher par les signes, c'est pas par la vue que l'on marche, c'est par la foi, c'est par la confiance. Je ne sais pas, Seigneur, mais toi, tu sais. Si tu attends un peu, tu verras et tu comprendras. Mais attends, fais confiance. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans un dilemme aujourd'hui et qui ont peut-être demandé cette Seigneur, montre-moi, fais-moi un miracle, donne-moi de voir le surnaturel descendre. Quelquefois Dieu le fait, hein, ça c'est certain, mais il a ses raisons de le faire. Mais souvent, on reste un petit peu en disant, Seigneur, alors on multiplie les prières, ne multipliez pas de vaines paroles, hein, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles et de prières, eh bien ils seront exaucés, hein, pas du tout, hein. Moi, je dis que Dieu se met les doigts dans les oreilles, s'il en a des doigts et des oreilles, pour finalement, eh bien, arrêter finalement tout cela. Laissons ça aux religions, avec leur litanie, avec toute leur façon de faire, parce qu'il faut prier, vous avez même des instruments pour égrener. Vous connaissez, on est sorti de là, hein, d'ailleurs, avant. Alors, nous voyons que ces trois hommes, eh bien, là, vont rentrer dans une dimension tout autre, et c'est Dieu qui va les faire rentrer. Ils vont plus être pareils, parce que c'est secret, ça. Mais c'est secret, mais c'est connu. C'est secret parce que Dieu nous l'a révélé. Et il nous l'a révélé, ces actions de l'esprit, pour ceux qui finalement mettent leur confiance en Dieu. C'est tout. Vous croyez que le monde, avec même ses traditions, ses croyances, ses légendes, ses contes, se préoccupe de ça? Ouais, c'est un signe, le baptême du Saint-Esprit. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est pas la réalité. On n'a pas été frappé par Dieu pour comprendre. Non, non. C'est autre chose. C'est une autre dimension. Alors, on va voir que tout le long de cette journée, l'affrontement ou les affrontements vont durer. Et il se passe un phénomène particulier qui nous parle, hein, de l'enseignement de la puissance, du pouvoir de Dieu. Alors, Moïse, déjà vieillissant, il devait avoir à peu près 100 ans, 110 ans. C'est votre espérance peut-être, non? 120 ans, c'est pas mal, hein? Demandez-le au Seigneur, vous verrez, hein? Mais vous allez mettre les caisses de retraite en faillite, mais elles sont déjà, hein? Alors, il est vieillissant, Moïse. Il a besoin de quelqu'un qui l'accompagne. C'est l'homme de Dieu, c'est l'homme supraspirituel, nous pourrions dire. Bien qu'il ait fait des erreurs même à la fin, hein? Mais toujours est-il que Dieu ne tient pas compte de nos erreurs. Parce que nos erreurs, elles nous apprennent des choses, si véritablement nous voulons les reconnaître. Et nous voyons que le pauvre Moïse va s'épuiser. Mais ça se comprend. On peut le comprendre. Et il va y avoir cette belle image des bras qui s'élèvent vers le ciel. Les mains élevées vers le ciel. Des paroles, non un geste. Est-ce qu'il y a quelque chose, une manifestation particulière? Non, un geste. Parce que c'est pas vers le bas. Et vers le bas, vous savez ce que ça signifie? Découragement. Ah oui, hein? Regardez comme il est abattu, hein? Il a presque ses mains qui touchent ses pieds. Alors, non, le haut. Qu'est-ce qu'il y a dans le haut? C'est vide. Il y a des nuages. Et quelquefois des nuages très sombres. Alors, nous voyons qu'à ce moment-là, dans les méandres de ce conflit, Israël va perdre des forces. Et ça va se voir. Il va reculer. Et là, il y a des doutes à avoir. Et c'est vrai, dans la lutte spirituelle, il y a des moments où on est porté, on se dit, on va gagner, on va y aller. Et puis, quelquefois, il y a des moments en disant, mais ça ne vient pas. Hein. Et Seigneur, c'est là où on crie. Hein. Le cri, c'est une prière. C'est une forme de prière, mais d'urgence. Alors, il va reculer devant l'adversaire qui gagne du terrain, parce qu'ils vont voir qu'Amalek se rapproche de plus en plus. Et ça fait un petit peu accordéon, tout ça. Hein. Alors, imaginez-vous l'effet psychologique que ça peut avoir sur Israël. Ses mains élevées sont le signe de la prière, je l'ai dit, qui implore Dieu. Mais attendez, le mot « implorer », c'est plus que prier. Oui, supplier. Véritablement, eh bien là, manifester à Dieu qu'il y a quelque chose de grave, mais le Seigneur le sait. Et s'il nous permet que nous ayons quelquefois des hauts et des bas, des avancées et des retours, enfin toutes sortes de choses en arrière, c'est parce que finalement il le permet. Moi, je prends l'exemple et je pense à Job. Vous savez, le pauvre Job, hein, il en a vu. Hein. C'est tout simplement le type d'une humanité de souffrance et de peine et de douleur. Et pourtant, quand vous lisez les 42 chapitres de Job, vous allez voir qu'il y a tout hein, dedans. Hein. Il y a de tout. Ça, c'est sûr. Et nous voyons que plus tard, lorsque la victoire, au soir même de ce jour mémorable, eh bien, ce jour de victoire prendra fin, Moïse, et nous l'avons lu dans la dernière partie de notre texte, va édifier un autel qu'on appellera Yahvé Nissi. Ça, c'est de l'hébreu, naturellement. Ça veut dire tout simplement « l'Éternel, ma victoire ». Et vous savez, ce matin, ce que j'ai remarqué, Damien, il nous a fait chanter que des cantiques. Et moi, quand je suis venu, je lui ai dit « on ne va pas prier ce matin ». D'ailleurs, on ne le fait pas. Hein, ou sinon, pour des cas exceptionnels. Mais une chose qui est certaine, c'est que le culte, il est là pour remercier le Seigneur. C'est le jour où on loue le Seigneur, où on le bénit, on le glorifie. Et dans les cantiques, autant dans vos louanges que j'ai pu entendre, eh bien, il y avait véritablement eh bien, ce désir de dire « mais Seigneur, vous avez passé une semaine, elle est peut-être difficile ». Elle a peut-être été chaude, mais pour tout le monde, hein, rassurez-vous. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il est bon à un moment donné que bien nous fassions, comme les Hébreux là, l'Éternel ma victoire, l'Éternel ma bannière. C'est marqué hein, dans le texte. La bannière. Ah ouais. C'est quelque chose. Hein. Moi, j'ai un souvenir de ce verset, puisque c'était le verset lorsque nous nous sommes mariés. Eh bien, c'était véritablement ce que nous avions choisi. L'Éternel, ma bannière. Parce que c'est son amour qui nous a réunis, et puis c'est son amour qui nous a été mis dans notre cœur pour faire le chemin que nous avons fait depuis 50 et quelques années. L'Éternel est ma bannière. L'amour de Dieu. Le bâton de Moïse dont nous avons parlé tout à l'heure, vous l'avez vu ce mot, est l'emblème de l'autorité. Oui, comme en Égypte. Il se passait des choses, hein. Moi, je crois que Pharaon avait une terreur du bâton de Moïse, hein, avec les serpents, et etc., etc. Vous avez vu? Il a eu peur, hein, à ce moment-là. Hein. Alors, ce bâton, tout simplement, c'est l'image, l'emblème du jugement qui nous fait souvenir, qui nous rappelle d'une manière très claire la défaite de Satan. Si vous allez à la chasse aux serpents, ce qui peut vous arriver... Moi, j'ai une horreur. C'est terrifiant. Moi, j'aime pas ça. Hein. Mais une chose qui est certaine, vous allez y aller avec un bâton. Ouais, ouais. Et vous allez taper dessus. Ah ouais, c'est des choses qui sont assez répugnantes, tout ça. Mais ça nous rappelle une autre histoire que nous connaissons et qui est dans la Bible. Hein. Ça nous rappelle la défaite de Satan. Ce même bâton qui vient de fendre le rocher, ce que le texte d'avant, vous pourrez le lire, hein, le chapitre 17 complètement. Vous allez voir. Quand à un moment donné, le peuple se plaint, et qu'il va pleurer devant Moïse en disant « Donne-nous à boire, donne-nous de l'eau et tout ça. » C'est ce même bâton où Moïse va s'approcher du rocher le plus dur, il va taper dessus, et là il va y avoir une source jaillissante qui va sortir pour abreuver le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. Alors ne pensez pas que c'est le bâton du sorcier, c'est le bâton du magnétiseur, c'est le bâton de ceci et cela. Non, il y a une signification spirituelle, authentique, et qui nous vient de Dieu dans tout cela. Parce que ça va fortifier leur foi. La foi dont ils vont avoir besoin après avoir bu, s'être désaltéré. La foi, lorsqu'il faudra voir le bâton élevé, ils vont dire « Oui, mais ce bâton, il a été déjà miraculeux. » Et il le sera encore dans la bataille. Là, ce n'est pas de l'eau, mais c'est la victoire sur nos ennemis. Et ce bâton va livrer le secret derrière le voile, se profile. Ça, c'est évangélique. Se profile tout simplement l'histoire de la croix. Ouais, la croix était en bois, me semble-t-il. Hein. Et je crois que pour nous, ce n'est pas le bâton de Moïse qui est important, tout c'est symbolique, mais c'est la croix du calvaire. Alors c'est vrai que ça paraît très, comment pourrait-on dire, doctrinal tout ça, mais c'est pourtant la vérité. N'oubliez jamais que l'essentiel de ce que nous sommes, de ce que nous étions, de ce que... nous sommes aujourd'hui, et de ce que nous allons devenir, et ce que l'Église a besoin de ne jamais oublier dans son cheminement, c'est la croix de Jésus. Et le christianisme qui oublie la croix, sans oublier naturellement la résurrection, et l'ascension, et puis tout le reste, mais c'est la porte qui s'ouvre. Oui, la croix parce que c'est le combat, notre combat est un combat permanent, celui des chrétiens. Et c'est ce que je voudrais vous rappeler pour mémoire, tout simplement, que dans le livre des Éphésiens, il y a cette parole où il est dit ceci, parce que c'est une, finalement, c'est un principe pour nous. Il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais comment nous pouvons nous fortifier ? Par la foi. Et par sa force toute-puissante. C'est Dieu qui est Dieu. Ce n'est pas les techniques militaires ou tout ce que voudraient les hommes ou leur combine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On le verra peut-être à un moment ou à un autre. J'ai déjà préparé le message. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et voilà ! C'est parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Là, c'est mis en évidence, hein, c'est Paul. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à je vous le dis tous les dimanches, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais nous avons à lutter de ce monde qui existe, invisible à l'œil humain, mais c'est une réalité. Et nous voyons à travers tous les méfaits qu'il y a dans le monde. Ça ne vient pas de Dieu. Et je peux vous dire que combien Dieu entend d'infâmes reproches sur son compte en disant ben, si Dieu existait, et s'il y avait un Dieu, et ceci et cela. Mais on entend rarement le nom du diable. Hein. Le nom de Dieu, oui. Ça, c'est sûr. Et quand ça va mal. Toujours quand ça va mal. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Les allées et les retours, les succès et les défaites, à travers tout ce que nous pouvons connaître dans la vie. Mais une chose, et je le redis parce que je l'ai dit tout à l'heure, le grand gagnant, c'est toujours Dieu qui aura la victoire sur le mal, sur le malin, sur le diable et toutes ses armées, quoi qu'il en soit. Alors Amalek est vaincu à ce moment-là. Il est vaincu. Et la malédiction pour toujours sur Amalek. Hein, il y aura toujours guerre entre Amalek et... Mais c'est un peuple qui a disparu aujourd'hui. Hein, alors qu'Israël subsiste, hein, après des milliers d'années. On le voit, et ça c'est formidable. Et quand on pense à Israël aujourd'hui, c'est terrible. Même s'il y a des choses qui sont certainement pas très bonnes ou très belles. Voilà. Ils sauvent leur peau, hein, ça c'est sûr. Mais moi je pense que ça fait comme Amalek, ce qui s'est passé là au mois de... Il y a 2 ans, hein, quand ils ont été, attaqués. Enfin, ça ne justifie pas les uns et les autres, parce que c'est la guerre et c'est le sang, quoi qu'il en soit. Nous voyons que Dieu va porter une condamnation éternelle, ou pour toujours. Et la faute d'Amalek est impardonnable, parce qu'elle tente d'anéantir le peuple de Dieu au moment où il vient de naître. Et c'est ça ce qui est terrible. Ça vous rappelle pas Moïse quand il est apparu dans son panier d'osier que sa mère l'a laissé aller au gré des flots sur le Nil ? Oui. Qu'est-ce qu'il est devenu, Moïse ? Là, il y avait bien une main derrière. Il y avait bien quelque chose d'extraordinaire. Et c'est toujours au moment de la naissance. Regardez Jésus à Bethléem. Qu'est-ce que Hérode voulait faire ? Il voulait le tuer. Et il y a plein d'histoires comme ça. Oui. Quand l'homme est faible, quand l'enfant est faible avant de devenir un homme... Eh bien, le diable veut faire mourir. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations de notre vie sociale et médicale aujourd'hui, parce que je peux vous dire que c'est terrible. Hein. Chacun son idée, et moi, je ne veux pas en discuter, mais à travers tout ce qui se passe avant la naissance, ou après, quand un homme est venu au monde et qu'à 20 et quelques années, on l'envoie sur un front, c'est terrible. Hein. Terrible. Et ça, c'est notre monde. C'est le monde de l'adversaire. C'est le monde... de la mort, ça c'est sûr. Les infanticides, on appelle ça. Je vais un peu plus loin. Je voudrais rappeler cette situation qui est une situation tellement contemporaine depuis toujours, mais plus particulièrement marquée par notre temps, dans ce 21e siècle. Détruire Israël. Ouais. Détruire le peuple de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, si vous aimez l'histoire, on peut dire les choses comme ça, à sa sortie de l'Holocauste, qu'est-ce qui s'est passé des camps de concentration ? Parce qu'ils ont été, il y a eu 6 millions de morts perpétrées par les nazis. Mais à la fin, quand ils ont commencé à sortir, ça a été véritablement un peuple qui a été... Oui, ils ont pris le dessus, hein, parce que c'est un miracle, Israël. Ce qu'il est devenu, à travers les 7 ou 8 décennies de son existence actuelle. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça n'a pas été fini pour Israël. C'est que les peuples n'en voulaient pas. Vous connaissez l'histoire du bateau, l'Exodus, hein, qui n'est qu'une image. Mais ce n'était pas une image pour eux, en tous les cas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cette résurgence, à cette résurrection de ce peuple? Qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, on assiste, même dans nos villes, même dans notre pays, on assiste tout simplement, eh bien, à la même cruauté, par toutes sortes de principes, à la même fureur contre le peuple d'Israël. La haine diabolique qui se... Et on en a des faits tous les jours. Le même jugement par rapport à Israël, d'une guerre sans fin. Alors hier, c'était les Philistins. C'était peut-être les Syriens, etc. Enfin, tous ces peuples. Et aujourd'hui, on peut parler, je fais la nuance, hein, les Palestiniens terroristes. Alors, je ne vais pas vous citer les noms parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est toujours la même haine. Détruisons Israël. Ouais. Et vous savez, Israël va s'en sortir encore. Maintenant, autant du côté d'Israël, autant du côté des pauvres Palestiniens, parce qu'il faut quand même le dire. Bon, ils ont eu peut-être le tort d'élire, peut-être un gouvernement qui était intéressé. Ça, ils ne l'ont pas vu, hein, peut-être, ou ils l'ont su, mais ils se disent ça n'ira jamais plus loin. Mais c'est une haine du diable par rapport à Israël. Palestiniens terroristes, et ce qu'on en a appelé d'une manière générale sur notre planète, l'antisémitisme. Il y a l'anti-islamisme aussi. Et vous savez, il y a une chose que nous avons constatée quand nous avons fait notre voyage à Jérusalem, en Israël, il y a quelques années, c'est que vous avez des terroristes palestiniens, mais je voudrais vous dire qu'il y a des terroristes israéliens. Si vous allez à Mechaché-Harim, un quartier de pur et de dur, on se croirait retrouvé, on se croirait du temps de Jésus avec les pharisiens qui l'ont crucifié. Ah ouais, c'est terrible. Ce sont des détails, nous, ça nous a marqués. L'antisémitisme, des siècles d'hostilité, sont attachés au feu et au sang, à la guerre. Je fais une dernière observation. Amalek et son double visage et son double langage. Ouais, parce qu'il n'y a pas de vérité. La vérité, elle est dans la bouche de Jésus. Elle est dans la bouche des chrétiens conséquents. Mais dans le monde... Il y a les deux. Hein. C'est pour ça que Jésus leur balancera, même aux religieux de son temps, hypocrites. Il leur dira, vous êtes des comédiens, vous jouez un rôle. Israël marche vers la terre promise. Aussi, nous pouvons comparer avec la vie chrétienne, se dirigeant vers la cité céleste. Mes frères, ce n'est pas ici-bas que les choses vont se passer pour nous. L'Église, elle a sa raison d'être. Elle a sa raison, finalement, pour l'évangélisation du monde, pour que nous puissions vivre eh bien, une relation d'amour entre nous, même si nous ne sommes pas d'accord les uns parfaitement, mais ça fait partie finalement de notre nature. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous marchons vers la cité céleste. Et je peux vous dire que d'une manière ou d'une autre, le diable est en train de casser. Et dans les derniers temps, ça sera pire. Il va véritablement s'en prendre à l'Église, d'une manière effroyable. Alors tenons-nous prêts dans cette affaire, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Hein. Et ce n'est pas les gens du monde, il les a. Il les a de son côté, il n'y a pas de problème. Il sait que de toute façon, les portes de l'enfer sont ouvertes, pour ceux qui ne croient pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour nous, eh bien, nous sommes prévenus, et nous sommes prévenus tout à nouveau de nous tenir en garde, parce que le temps approche où Jésus revient bientôt. Hein. Ouais, ouais. Et ça, il y a aussi une vérité qu'il faut cultiver, qu'il faut développer. Ça, c'est tout à fait... nécessaire. Alors nous comparons finalement notre vie ici-bas, c'est temporaire, c'est tout simplement passager, avec cette Égypte dont était finalement le contexte dans lequel nous étions tout à l'heure avec Amalek. L'Égypte incarne le monde sans Dieu. On appelle ça de la mondanité tout simplement. Et nous voyons que Pharaon, qui est le chef de cet empire, le roi de cet empire, figure Satan, et ses armées qui luttent contre le peuple de croyants chrétiens graciés. Attention, je dis bien graciés, ce que nous sommes. Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a fait enfants de Dieu, il nous a fait disciples, il nous a fait ses fils et ses filles. Amalek est le type de la chair, du moi, de l'ego, la personnalité humaine irrégénérée. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle naissance. Nous entendons l'évangile, nous croyons, nous recevons la parole de Dieu, et à ce moment-là, Dieu va faire une opération. Confession de nos péchés, pas à un homme, mais directement au Seigneur. Nous acceptons Jésus, c'est la conversion. C'est lui qui est notre roi et notre chef. Et puis ensuite, il y a ce que nous pouvons appeler la nouvelle naissance, la régénération dont il nous faudra toute une vie pour arriver. Oui, pour être à la ressemblance de Jésus. Et puis, tout ça, c'est la nature déchue, c'est tout simplement la nature perdue. Et une grande différence tient à ceci, c'est naître de nouveau, continuant à prier pour un évangile tout simple qui amène finalement les hommes, à reconnaître Jésus comme leur sauveur personnel. Et Dieu fera le reste, parce que ça, c'est un miracle de l'esprit. Naître de nouveau et marcher dans l'esprit, demeurer dans l'esprit. Donner finalement à l'esprit dans notre vie la priorité. Parce que là-haut, ça sera une vie spirituelle, éternelle. Quoi qu'il en soit, la Bible nous dit que nous aurons un corps glorifié. Bon, ça, on ne rentre pas et on ne le conteste pas. Mais une chose qui ça sera véritablement une autre dimension. La conclusion. Il y a une belle prière, je crois que ça doit être dans les psaumes, me semble-t-il. Je n'ai pas remarqué la différence, mais ça m'est venu à l'esprit. Dieu exerce mes mains au combat, c'est ce que nous avons vu dans cette fameuse bataille. Et mes bras tendent l'arc des reins, mes doigts à la bataille. Alors gardons, mes frères et sœurs, nos mains élevées vers le ciel. Et il y a un poème que j'aime beaucoup. Il est dit ceci, « À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Armons nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. » Que ces paroles du Seigneur vous bénissent, mes frères et sœurs, et vous encouragent, quoi qu'il en soit, parce que c'est véritablement l'esprit de Christ et l'esprit de l'Évangile. On va prier quelques instants. Merci pour votre écoute. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta fidélité, pour ton accompagnement dans nos vies. Pour certains, de mes frères, de mes sœurs, ils viennent juste d'arriver. Ce sont des commençants, des débutants. Ils ont besoin de ce lait spirituel. Ils ont besoin véritablement de grandir et comme quelquefois nous l'entendons, « Comment ça va ? Je tiens bon. » Alors ça, c'est bien. Et puis, il y a des anciens comme nous, où nous avons quelques dizaines d'expériences, et nous savons que nous avons beaucoup appris. Nous avons été mêlés à des combats. Nous avons été mêlés à des batailles. Nous en sommes ressortis blessés, mais tu nous as toujours pansés, tu nous as toujours soignés, tu nous as toujours guéris. Alors merci, Seigneur, parce que c'est un encouragement. Pour ceux qui sont en lutte aujourd'hui, et puis nous savons qu'à un moment ou un autre, nous fermerons nos yeux, mais nous savons que le ciel va s'ouvrir pour nous. Quelque chose va se faire, et nous serons arrivés dans le pays, non pas de Canaan, mais dans le pays de la promesse éternelle. Bénis mes frères, visite-les, accorde-leur ta grâce, donne-leur d'être encouragés aujourd'hui par ta parole. Parce que c'est un homme qui parle, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est de reconnaître la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu dans sa parole. Amen. Amen.